Bienvenue dans Mythologie, l'émission qui n'a pas encore fait scandale, mais qui devance cette possibilité dès aujourd'hui, en vous livrant une petite réflexion sur ce mot omniprésent, la chasse au scandale étant devenue un sport national dont certains se sont fait une spécialité. Tout commence, ou presque, avec les Goncourt. En 1868, les célèbres frères publient Charles de Mailly, roman mettant en scène pour mieux la fustiger la profession journalistique qui se constitue à l'époque dans un mouvement de rupture avec la littérature et ses écrits vains. Tout le roman va alors s'organiser autour d'un journal, symptôme de l'avènement d'une presse médiocre qui n'en est pas moins féroce, archétype du journal de bas étage qui fait son fonds de commerce de faits divers et de fonds de tiroirs laissés ouverts dans telle ou telle chambre parisienne. Ce journal s'appelle, je vous le donne en mille, Le Scandale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Goncourt ne seraient pas dépaysés en 2010. Des grands quotidiens nationaux aux feuilles de chou locales en passant par les tartines estudiantines, Le Scandale est devenu la valeur journalistique par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il réalise en quelque sorte le fantasme de l'événement pur. Le scandale en effet surgit, éclate, fait irruption au cœur de la vie publique. Flamboyant, fulgurant, aveuglant aussi, il éclipse les feux pâles d'une actualité éteinte sans relief. Épicentre d'un séisme, œil d'un cyclone, on parlera parfois de tempête médiatique, il fascine par sa force de rupture dans l'ordre du monde, par sa puissance subversive et destructrice. Imprévisible, capable de survenir à tout moment sans s'annoncer, le scandale est toujours une catastrophe. Et l'on notera que le mot catastrophe était jadis employé pour désigner le dénouement ou la fin d'une pièce de théâtre. Car c'est bien le monde tel qu'on le connaît que le scandale risque de bouleverser, de renverser, d'entraîner dans la chute de ses protagonistes. La crise financière mondiale de 2008 n'a-t-elle pas été émaillée de nombreux scandales dont Jérôme Kerviel, l'homme par qui le scandale est arrivé, peut-on lire sur le site EasyBourse, et Bernard Madoff sont les figures les plus incontestables. Il y a alors comme un parfum de décadence, le sol menace de se dérober sous nos pieds, comme le scandale de Panama fit autrefois vaciller les fondations encore fragiles de la Troisième République. L'intéressant avec les scandales politico-financiers, c'est qu'ils insistent sur la mise en scène du scandale comme révélation, dévoilement, surgissement soudain d'une vérité jusqu'ici restée dans l'ombre. En ce sens, chaque scandale est à lui seul le théâtre d'une petite apocalypse, fin d'un monde et révélation mise à jour de la vérité. En témoignent les sempiternels rebondissements du procès de l'Angola Gate, procès dont l'un des personnages les plus en vue n'est autre que le sémillant Charles Pasqua. Conjurant le mal par le mal et le scandale par le scandale, l'ex-ministre de l'Intérieur demandait le 27 octobre dernier sur France 2 la levée du secret défense sur cette affaire, promettant de faire trembler l'Olympe politique. De sa voix titanesque, Charles Pasqua prophétise le crépuscule des dieux du moment, jubilant par avance d'assister à ce qu'il appelait dans un de ses livres un magnifique désastre. Les médias de tout poil, c'est l'évidence même, ne cessent de se repaître de ces ébranlements annoncés, de ces spectaculaires écroulements, qu'ils contribuent sinon à créer, du moins à orchestrer et à mettre en lumière. Tout se passe comme si la sphère politico-médiatique, arbitre des élégances politiquement correctes et des modes bien pensantes, distillait le scandale pour animer une vie publique anémiée et dévitalisée. L'inquiétant, c'est que le scandale nous tient désormais lieu de vie et de débat public. Qu'on songe par exemple à l'anathème lancé par Marine Le Pen contre Frédéric Mitterrand dans l'émission Mots croisés. Qu'on songe également à la ridicule et maladroite candidature de Jean Sarkozy à la présidence de l'EHPAD. Le pouvoir politique et médiatique, en créant et en délimitant un espace où le scandale peut s'insinuer, ouvrirait alors une faille dans la chape de plomb du politiquement correct régnant pour mieux la recouvrir, la refermer ensuite. Il faudrait donc voir le scandale comme le contrepoison d'une démocratie endormie, incapable de se saisir des débats qui engagent son avenir, mais qui se croit revivre dans des convulsions aussi délétères qu'artificielles. Pour parler comme Christian Salmon, on pourrait dire que le scandale est aujourd'hui un ressort fondamental du storytelling. Mais quelle est cette histoire que l'on nous raconte à grand renfort de une et de tribune ? Histoire du coup d'éclat, certes, histoire éclatée aussi. Histoire atomisée, à l'image des citoyens rejetés dans telle ou telle portion de l'espace public, selon leur couleur de peau, leur religion, leur âge, leur sexualité et les intérêts qui en découlent. Histoire disloquée et fragmentaire, qui interdit la vision d'ensemble et le recul critique. Il est utile ici de revenir au premier sens du mot scandale, c'est-à-dire événement incompréhensible, qui pose problème à la conscience, qui fait trébucher la raison, qui fait obstacle à la pensée. Le scandale est donc un moment de suspens, moment d'arrêt, qu'il faut circonscrire par une indignation de bon ton ou une approbation toujours honteuse. Autrement dit, le scandale ne permet pas les positions intermédiaires, mais impose, exige au contraire une réaction quasi immédiate, intuitive, instinctive presque. Le scandale ne laisse pas le choix, il engage quelque chose de notre vérité intime. Et parce qu'il fait appel au sursaut prime sautier et instinctuel qui se déclenche en nous, il se fait inquisiteur et participe de cette passion de l'aveu que Michel Foucault a analysée dans La volonté de savoir, comme injonction à la parole et à la confidence, fausse voie de libération mais véritable dispositif d'aliénation et de contrôle des individus. Le silence face à l'objet du scandale devient alors inconcevable, intolérable, inacceptable, en un mot scandaleux. Pernicieux déplacement, terrible cercle où le scandale produit du scandale. Cercle vicieux, assurément, qui nous rappelle qu'étymologiquement, scandale signifie piège. Mais plus que les personnes emportées par la tourmente du scandale, c'est peut-être le langage qui s'y trouve piégé, enfermé, condamné à absoudre ou accablé, forcé de se couler dans le moule d'un lexique convenu, sommé de se commenter et de commenter les mots qui ont fait scandale. Le métalangage prend le pouvoir. Et c'est bien le triste spectacle qu'une partie de la classe politique nous a donné à voir il y a quelques mois, quand elle s'est engouffrée dans la brèche ouverte par Marine Le Pen, au sujet du livre « La mauvaise vie » de Frédéric Mitterrand. Marine Le Pen versus Frédéric Mitterrand, ou quand le scandale commence par une explication de texte. Et effectivement, les quelques lignes jetées en pâture au déchaînement médiatique ont été glosées, sans attention aucune pour le statut littéraire du texte et sans égard aucun pour les subtilités, les ambiguïtés induites par ce statut si particulier. Après tout, pourquoi le scandale s'embarrasserait-il de telles difficultés ? Il offre au contraire une image faussement simple de la réalité, il éclate pour mieux noyer les obscurités du monde dans la lumière d'une pseudo-évidence, il aveugle plus qu'il n'éclaire, il terrifie comme terrifie la lumière blanche qui suit immédiatement l'explosion d'une bombe nucléaire. Il est le lieu et le moment où tout se pétrifie, et nous en sommes les otages. En ce sens, je dirais que la politique du scandale est une politique terroriste, un terrorisme de la pensée. Assignation à l'instant, assignation à la parole, assignation à l'indignation, le scandale triomphe quand il captive et capture, mais ne peut plus fonctionner dès lors qu'on se détourne de lui. Lieu et moment de pétrification, nous l'avons dit, le scandale fait figure de méduse des temps modernes. Et comme dans le mythe grec, la meilleure façon de le neutraliser reste peut-être de le pendre au piège de son propre reflet. Merci, au revoir et à la semaine prochaine sur Mythologie.